Bonsoir messieurs, Éric Després, avocat au barreau de Paris également. Ma question fait écho en fait à la première question qui a été posée par monsieur, s'agissant des règles de gestion qui, pour ma part, me sont assez obscures. Mais s'agissant des questions relatives au droit qui m'intéressent plus particulièrement, et regard de ce qui s'est dit ce soir, j'aimerais avoir votre sentiment à tous les quatre. Ou à tous les trois, pardon, sur le vous avez le droit d'avoir voilà, votre avis sur le point de savoir, dans l'hypothèse d'une harmonisation de nos droits en matière pénale, si la procédure inquisitoire ne serait pas la grande perdante face à la procédure accusatoire dans une hypothèse d'harmonisation. Et ça poserait également une deuxième question qui est celle de l'avenir du juge d'instruction. Et là, Monsieur Cassuto, vous êtes le mieux placé pour envisager une réponse à cette question en tant qu'ancien magistrat instructeur au tribunal de grande instance de Nanterre. Dans cette harmonisation et dans l'hypothèse où l'influence, puisqu'il ne fait de secret pour personne qu'en Europe, en tout cas dans l'Union européenne, la procédure à la française n'est pas majoritaire et qu'on se ressent même à travers la création d'un parquet européen et pas d'un juge d'instruction européen, que la tendance est plus vers la procédure accusatoire que la procédure inquisitoire.
Sur l'harmonisation, en fait, actuellement, l'Union européenne met en œuvre la feuille de route de Stockholm, notamment sur les droits fondamentaux. Et il y a trois exemples très intéressants. A été adoptée fin 2010 une directive sur le droit à la traduction et à l'interprétation qui harmonise ce droit en créant des règles minimum. Ensuite, vient d'être adoptée une deuxième directive sur le droit à l'information qui va poser des problèmes par rapport justement au secret de l'instruction, parce que ça traduit des différences ou ça va nécessiter des adaptations entre les différents systèmes. Et on discute actuellement, la Commission a proposé un projet de directive sur l'accès à l'avocat. Votre question, elle est tout à fait pertinente. Il est très difficile d'y répondre parce que le principe, c'est que l'Union européenne respecte les droits nationaux. Et que l'un des principes d'action législative, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que cette action n'a de sens, de pertinence, que si c'est pour substituer à une situation qui est défavorable et donc pour apporter une plus-value à la situation entre les États membres pour faire en sorte de surmonter un certain nombre de difficultés en termes de libre circulation des personnes, etc. Et il y a eu des réactions extrêmement épidermiques, pas seulement de la France, mais de la Belgique, des Pays-Bas, même de la République tchèque, de l'Espagne, sur ces projets, parce que au-delà d'un système qui prévaudrait sur un autre, effectivement, ce sont des équilibres nationaux qui sont remis en cause. Et c'est pas tant finalement le principe d'avoir des droits minimums, d'avoir une harmonisation par le bas, mais qui peut déjà être élevée, qui pose problème. C'est la marge de manœuvre qui est laissée aux États. Et effectivement, mais là, mon point de vue n'engage que moi, hein, attention, je pense que si l'on se concentre sur un aspect du droit que l'on harmonise, il y a un risque de déséquilibrer un système dans son entier. Pas simplement le principe de la garde à vue, par exemple, ou pas la manière de conduire des enquêtes comme on le fait en France, mais ce point de procédure resitué dans un contexte général qui s'inscrit dans une tradition. Le principe de révéler des éléments de preuve n'a pas le même sens dans une procédure accusatoire et dans une procédure inquisitoire. Et cette nuance, elle est très difficile à transmettre dans un texte ou dans l'interprétation d'un texte. Et il faudra sans doute à la fois que les juges nationaux et les juges européens, la Cour de Strasbourg et de Luxembourg, interviennent pour donner leur avis. Pourquoi ? Parce que finalement, ces droits, on les a plus ou moins définis par rapport à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, de la CEDH. Bon, et on est parti de l'idée que cette jurisprudence, elle crée des standards minimums qu'il est de bon ton que tout le monde adopte. Sauf qu'effectivement, ces décisions, enfin, en tout cas, et là encore, c'est mon point de vue, ces décisions, elles sont rendues pas contre un État, mais dans le contexte d'une procédure d'un État. Et ce contexte, il est différent d'un pays à l'autre, et que donc la portée générale qu'on voudrait donner à ces décisions de Strasbourg pose des problèmes. Je ne dis pas que c'est un inconvénient, mais ça pose des questions, ça pose des problèmes au sein des différents États. S'il faut aller au-delà sur la question du juge d'instruction, bon, je ne vais pas me renier, hein, j'y suis attaché. Je crois que pour avoir un petit peu échangé avec des autorités américaines ou anglaises, je crois qu'il y a des affaires qu'on sait traiter, certes avec beaucoup de temps, mais qu'on sait traiter en France et qui sont traitées totalement différemment et souvent pas sur le plan pénal, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Est-ce qu'un dossier comme le Concorde aura été jugé jusqu'à son terme dans ces pays-là? Est-ce qu'un dossier comme le tunnel du Mont-Blanc aura été jugé jusqu'à son terme? Est-ce qu'un dossier comme l'Erika n'aurait pas conduit à un accord entre les parties? Ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu de décision pénale. Peut-être que les parties, les victimes auraient été satisfaites, mais en même temps, par rapport à la manifestation de la vérité, par rapport à l'établissement des faits, on peut rester dans une certaine insatisfaction. C'est une conception que je conserve. Peut-être que je changerai d'avis sur ce terrain-là, mais je pense que cette opposition entre manifestation de la vérité et intérêt des parties, qui peut conduire à des travers, mérite d'être préservée.
Bonsoir, je suis Nicolas Lix de Confrontation Europe. J'ai deux questions. Alors peut-être que ce que M. Cassuto vient de dire commence à répondre, mais pour moi, peut-être pas tout à fait. D'abord, merci de tout ce que nous avez appris, apporté. Donc mes deux questions sont la suivante. Monsieur Michelini a dit que la Charte des droits fondamentaux européens a la même valeur que les traités. Donc je voulais savoir concrètement comment vous pouvez expliquer, par exemple, dans la hiérarchie des sources de droit, comment vous l'utilisez. Et est-ce que c'est, par exemple, si c'est trop difficile et trop long de répondre à ma question, est-ce que vous pourriez cibler sur le droit pénal des affaires? Ce qui m'amène à ma deuxième question, dans la comparaison des systèmes de droit que vous avez évoqués les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire à propos de la différenciation personne morale, personne physique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des acceptions différentes du droit applicable à ces deux personnalités?
Oui, la charte a la même valeur du traité, et ça c'est écrit dans les traités. Qu'est-ce que veut dire? C'est un discours assez long, mais dans la hiérarchie des sources, la charte maintenant a une valeur paraconstitutionnelle, on peut dire, ou une valeur comme les traités internationaux, ça veut dire que la loi nationale se doit conformer au principe d'agrès avec un traité international. C'est en pratique, il n'est pas facile. Il y a des arrêts assez intéressants de la Cour de justice de Luxembourg, pour exemple en matière sociale, l'affaire Cucurvecheci, l'affaire, il y a des affaires, l'affaire Mangold qui est plus, non, mais l'affaire Cucurvecheci surtout est qui est récente, qui dit que le juge national doit appliquer directement la charte en disappliquant la règle nationale, ou ce que c'est mieux est qu'il passe par un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de Luxembourg, qui a le rôle d'interpréter les traités, donc la charte qui a la même valeur de traité. C'est un discours assez long, mais pour faire bref, je pense qu'il faut inscrire le rôle de la charte à ce niveau dans la hiérarchie des sources. Je me souviens qu'au temps de l'approbation de la charte, il y avait une politique, un ministre italien qui a dit « J'espère que soit femme une constitution ». Mais à la fin, il est passé qu'on a un traité, un jeune, un masculin. Et alors, on ne peut pas dire directement qu'il y a une valeur constitutionnelle. Ça n'est pas correct. Mais je pense qu'il y a une valeur paraconstitutionnelle. il y a une évolution dans le droit pénal européen qui maintenant pense que pour le droit pénal, il y a la responsabilité aussi pour les personnes juridiques. La différence, c'est sur les sanctions. On ne peut pas mettre une personne juridique en prison. Mais on est arrivé à dire que je pense que depuis un long développement, maintenant, les personnes morales peuvent être responsables pénalement comme, mutatis mutandis, les personnes physiques.
Bonjour, Valentine Cronier, étudiante en droit de l'homme. Je voulais poser une question sur les éventuelles limites de l'harmonisation au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a trois aspects qui me semblent un petit peu limiter potentiellement cette harmonisation. Donc, d'une part, les outils de raisonnement de la Cour, surtout la marge nationale, le renvoi à la marge nationale d'appréciation et les notions autonomes, et plus précisément la notion autonome de peine. D'autre part, la domestication qui peut être faite par les juridictions nationales, puisqu'elles ont une marge de manœuvre dans l'application de la Convention. Et enfin, les effets des arrêts de la Cour, puisque vous en avez parlé pour expliquer que vous teniez à l'effet inter partes qui permet de ne pas pouvoir bousculer l'équilibre d'un système national. Mais est-ce que ce n'est pas potentiellement une limite à l'harmonisation de ne pas avoir prévu un effet erga omnes des arrêts de la Cour?
Excusez-moi, vous parliez de quelle Cour? De Strasbourg. D'accord. Il faut se replacer dans le contexte. La Cour européenne de Strasbourg, elle a été créée en 50 dans un contexte intergouvernemental. Et elle s'est un peu affranchie de la mission initiale en développant une jurisprudence extrêmement dynamique. C'est pour ça que tout à l'heure je citais l'article 3 ou l'article 6, auquel on peut faire dire des choses qui n'ont pas grand-chose à dire, à voir avec la lettre du texte. Et ça, c'est grâce à des outils de raisonnement, sans doute un petit peu empruntés aux différents systèmes juridiques, parce que la personnalité et la culture des juges qui l'ont composé ont influencé sur sa jurisprudence et aussi sur l'idée qu'un juge veut que sa décision ait un effet, ait une portée et aille de l'avant, donc réponde à toutes les situations qui lui sont soumises. Je crois que ça c'est important, et aujourd'hui encore, si je vous donne un exemple, si vous prenez la question prioritaire de constitutionnalité rendue le 18 novembre dernier sur le droit à l'information et la garde à vue, il faut la lire avec le commentaire du Conseil constitutionnel à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, et c'est un travail intellectuel passionnant, mais qui ne donne pas aux juges judiciaires français toutes les clés, toutes les solutions. Donc ça veut dire que il y aura encore du contentieux sur l'interprétation de la Constitution française à la lumière, ou des normes nationales à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme. Les notions autonomes, c'est quelque chose qu'a initié la Cour de Strasbourg pour, d'une certaine manière, harmoniser des concepts et donc du droit, et qui a été repris, ou qui correspond aussi à ce que fait la Cour de Luxembourg, et qui a été repris par celle-ci dernièrement en matière pénale. Lorsque la Cour de Luxembourg parle de notions autonomes du droit communautaire s'agissant du principe nebis in idem, que l'on retrouve dans plusieurs instruments internationaux, que l'on retrouve dans plusieurs instruments dérivés du droit communautaire, c'est une démarche d'harmonisation. Maintenant, ça laisse la place pour le juge national d'interpréter les faits et d'appliquer cette notion. Mais si je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure par Madame Alix, finalement, si on est poursuivi pour deux infractions d'atteinte à l'environnement qui auraient touché deux pays, une pollution maritime entre la France et l'Italie, est-ce que c'est le même fait? On pollue la côte française, on pollue la côte italienne, ce sont deux faits différents. Oui, mais le fait générateur peut être le même fait. Est-ce que le principe nebis in idem s'applique? Si on poursuit l'armateur en Italie et qu'on poursuit le commandant en France, est-ce que c'est du nebis in idem? Et dans l'application de ces normes, comment on va articuler la Convention de Schengen, la Charte des droits fondamentaux ou la Convention européenne des droits de l'homme et son septième protocole? Ce sont des questions qui ne sont pas résolues, qui participent de la construction d'un droit et qui, par sa construction même, je pense, tend une forme d'harmonisation. S'agissant de l'effet inter partes, là, je crois qu'on est vraiment dans du droit conventionnel. Déjà, une des questions majeures, c'est c'est le respect des décisions rendues par la Cour qui pose problème vis-à-vis de certains États. Mais en même temps, la jurisprudence de la Cour, et on le voit dans ce que contient le projet de directive que vous pouvez consulter sur l'accès à l'avocat, elle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris pour des décisions rendues à l'égard d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a une portée qui va au-delà de cet effet simple et qui, là encore, tend à une forme d'harmonisation. C'est un instrument qui est en cours de négociation, qui évoluera, mais quoi qu'il en soit, on tend vers une forme d'harmonisation à partir de ces standards minimums définis à Strasbourg.
Je vais passer la parole à le grand instigateur de la soirée, qui est Michel Rouget, et après à monsieur, et puis ensuite, ce sera pour le buffet.
Un peu en conclusion, parce qu'un mot n'a pas été prononcé, qui est pourtant le fondement essentiel du Code de procédure pénale français, l'aveu. On a un peu abordé sur le tard la vérité. Or, ce sont les deux mots sur lesquels on ne voit pas, pour des raisons culturelles, comment harmoniser les procédures pénales d'origine anglo-saxonne et les nôtres. Alors, je n'ouvre pas le débat. Je sais qu'il est un peu convulsif en France à raison d'un antagonisme inquisitoire-accusatoire qui n'existe pas dans les pays à procédure accusatoire, qui ne font pas de fixation sur les procédures inquisitoires comme nous le faisons, nous, sur les procédures accusatoires. Mais simplement, nous allons poursuivre avec Thomas Cassuto la réflexion et les discussions que nous avons sur ce sujet depuis quelques années pour dire au monsieur qui a posé la question et qui est parti, à l'avocat, que la recherche d'une analyse culturelle des rapports entre la vérité et l'aveu et entre les deux systèmes me paraît digne d'intérêt. Thomas, qu'en pensez-vous ?
Alors, attendez, plutôt que de donner tout de suite la parole pour répondre, on va donner la parole à monsieur, et puis des orateurs feront une réponse globale.
Oui, je suis médecin. Et dans notre métier, sur le plan national et international, on est en train d'harmoniser un certain nombre de réflexions, tant diagnostiques que thérapeutiques. Je ne suis pas sûr, quand j'ai entendu l'excellent exposé de M. Orsington, que la diversité dans le monde anglo-saxon n'apporte pas une richesse. Et les difficultés que j'ai entendues, sauf que Thomas Cassuto a déjà donné un peu une harmonisation positive, je crois avoir entendu ce mot, j'ai peur qu'une harmonisation puisse entraîner peut-être une banalisation ou un appauvrissement. Tout du moins, c'est une question qu'on pouvait se poser. Et dans ce cas-là, le titre ne serait pas « L'harmonisation est possible », mais « L'harmonisation est-elle toujours nécessaire ?» Et est-ce que ces tendances à harmonisation n'existaient pas ou ont été décidées avant l'ère numérique ?
Voilà, donc vous pouvez répondre librement et nous continuerons à échanger au buffet si vous voulez.
La question de Michel me laisse sans voix. Non, je pense que la question de l'aveu, c'est, pour moi, c'est un petit peu... pour moi, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'on tend à faire croire que la position accusatoire aujourd'hui est fondée sur l'aveu, alors que, à la limite, on peut très bien enquêter et recevoir les déclarations ou pas d'une personne. C'est ce vers quoi, de toute façon, nous tendons dans une démarche d'harmonisation. Bon, il y a un principe fondamental qui tend à s'imposer, c'est le droit de ne pas avoir à s'accuser. Et effectivement, l'aveu, la question de l'aveu, du rôle qu'on donne à l'aveu, vient heurter ce principe. Mais je crois que c'est un petit peu... C'est parfois un argument pour remettre en cause notre système, alors que finalement, à mon sens, il ne repose pas, tant qu'on veut bien le dire, sur l'aveu. En revanche, la vérité, c'est une vraie question, parce que le compromis qui est conclu entre les parties et qui donc fait échapper à la réponse de l'État quelque chose d'extrêmement grave, ça pose un problème vis-à-vis de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que est-ce que ça ne laisse pas ou ça ne nous met pas dans l'impossibilité finalement de tirer l'expérience de ce qui s'est passé pour prévenir à nouveau des comportements déviants. Et je crois que ça, c'est encore une vraie différence et c'est pour ça que je reste attaché. Mais les deux systèmes se confrontent et ils échangent. Je crois qu'on ne peut pas dire que notre système ne se transmet pas. Quand nous avons un magistrat français qui est à la cour, au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il se comporte en juge français et ce comportement apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il est extrêmement actif à l'audience. Et c'est quelque chose qui est ressenti positivement, y compris par les parties, par des procureurs qui ont une culture de common law. Et ça, c'est extrêmement important. S'agissant de la question du docteur Maizel, c'est très difficile. Je crois que l'idée, c'est pas d'avoir un camembert qui serait au lait bouilli. C'est surtout d'avoir quelque chose qui, dans le domaine de la protection des libertés individuelles, apporte des garanties minimum. Alors après, c'est aux États, chacun, d'assumer leurs responsabilités, à la fois pour faire en sorte que leur système progresse, parce qu'il n'y a pas de système idéal, et je n'en connais pas. Le système idéal est toujours à venir, il n'est jamais atteint, et nous avons à gagner à nous influencer les uns et les autres. Et dans la question que vous posez, moi je voudrais simplement citer un exemple qui n'en est pas un, mais qui sera peut-être l'avenir de 2012. Le Danemark ne participe pas à l'adoption des instruments en matière de droit pénal européen. Le Danemark a fait ce choix et le Danemark est sur le point de revenir sur ce choix, c'est-à-dire de choisir de s'inscrire dans une démarche d'harmonisation, c'est-à-dire qu'avec le recul, en étant dans la position permanente des Britanniques, des Anglais et des Irlandais, d'un opt-out permanent. Dans cette position-là, ils considèrent que leur système s'affaiblit, à la fois dans la lutte contre la criminalité organisée, mais aussi dans la garantie des libertés individuelles et dans une meilleure articulation des droits entre eux, parce que si les frontières n'existent plus, si les citoyens circulent librement, ils ont besoin aussi d'une forme de sécurité juridique qui repose sur des standards minimums. Et c'est, à mon sens en tout cas, la démarche extrêmement positive que tend à initier ou à prolonger l'Union européenne.
Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter parce que je suis plus ou moins d'accord avec Thomas du point de vue de sa réponse. Mais du point de vue de l'autre réponse à cette question-là, il faut que je dise que on a déjà cité l'opt-out pour dire qu'il faut voir ce qui est dans l'instrument avant d'être d'accord, dans un sens d'éviter ce genre de banalisation, d'avoir quelque chose fait par une majorité, comme on dit en anglais souvent, qu'un chameau c'est un cheval fait par un comité. Alors, il faut quand même éviter ce genre de choses. Mais de l'autre côté, je dis très sérieusement, on a vu dans le dernier gouvernement de Blair, socialiste, M. Blair et M. Brown, on a vu, comme j'avais dit, exil interne, on avait dit arrêt sans raison substantielle, on a plus le droit au silence dans le Royaume-Uni. Si on ne répond pas à la police quand on est arrêté, on peut utiliser ce silence pour dire que vous êtes mensonger parce que vous n'avez pas répondu à notre question. Même si c'est une question qui est difficile à répondre. On a une situation aussi où on avait parlé du double incrimination actuellement a lieu. Tandis que nous sommes ici, un procès qui s'appelle Lawrence, c'est un monsieur, un jeune qui était mis à mort. Andy, pas de personne, qui a 12 ans, était devant un tribunal, devant un jury, et qui les ont trouvés non coupables. Alors on a une loi dans le Royaume-Uni qui dit que pour tout crime sérieux, on peut arrêter de nouveau, sans limite, toute personne pour le même crime, jusqu'à jamais, s'il y en a, selon la police, de nouvelles preuves. Alors la première fois qu'on voit cette situation, c'est aujourd'hui, avec ce procès qui continue actuellement, avec deux personnes qui, il y a 12 ans, quand il y avait, je pense que les garçons avaient 18 ans, 19 ans, il y a 12 ans, qu'ils étaient trouvés non coupables. Et il faut dire ce genre de choses, parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit mon cher confrère, M. Smicellini du point de vue de double incrimination. Pour dire que c'est bien d'avoir une harmonisation pour les règles minimum. Sinon, on a les désastres de manque de silence, de droit de silence, et on a double jeopardy.
Pour répondre à ce qui était dit sur du professeur et du médecin, l'harmonisation n'est pas un objectif, l'harmonisation c'est un moyen. L'objectif c'est l'intégration. L'objectif dans le domaine des droits pénals c'est de poursuivre les infractions et de protéger les droits fondamentaux, les droits des citoyens. L'harmonisation c'est un moyen assez utile quand on a à faire face à des crimes avec une dimension transfrontalière. Et alors, quand il est utile, il faut utiliser sans préjudice. Mais l'objectif n'est pas l'harmonisation per se, mais c'est une meilleure intégration et une meilleure protection des droits des citoyens européens.
La prochaine soirée aura lieu le 30 janvier. Le sujet sera affronter l'incertitude. Merci.